bonjour à tous et bienvenue pour ce 30e épisode de l'Another Podcast. Aujourd'hui, nous sommes quatre autour de la table. Il y a moi-même, François,
Reynald,
Dominique
et Laurent.
Comme d'habitude, hein, plein d'actualités geek et plus. Au sommaire de l'émission, on parlera de jeux très gore. On parlera de quelques petits jeux mobiles, des news du web insolite avec des menaces de mort. C'est pas bien. On parlera aussi d'une exposition Big Bang Theory. Et nous aurons un intervenant dans l'émission, un reporter qui a pu aller au salon du jeu de plateau qui se situe à Essen, qui est quasiment l'un des plus grands au monde.
C'est la référence.
Voilà, ouais.
Je vous propose de commencer tout de suite avec du gore. Il y a un trailer qui est sorti, le trailer de Hatred, donc H-A-T-R-E-D.
Hatred.
C'est une sorte de GTA-like, on peut dire ça comme ça.
Mm-hmm. J'avais compris GTA-lite, je suis de coup qui cause.
Non, c'est loin d'être light.
GTA Heavy.
Les trailers qui ont été diffusés dernièrement ont choqué.
Bah, en gros, ça fait un peu penser aux tueries qu'il y a eu en Amérique principalement. Le type qui sort dans la rue blindé d'armes et de munitions et de grenades et qui fait pratiquement qui tire au hasard, quoi.
Voilà. Le but, c'est de faire le plus de morts, quoi.
Voilà.
Et les scènes qu'on peut voir donc sur le trailer, c'est vrai que pour les âmes sensibles, c'est assez difficile à regarder. Mm-hmm. Donc on a des exécutions d'innocents. On sent qu'ils sont innocents, hein. C'est des civils lambda et qui sont exécutés par le héros.
Il est tout en noir. Faut dire que le jeu est en noir et blanc, et blanc stylisé.
Ça te rajoute quand même pas mal sur l'ambiance et le côté malsain du jeu. Ouais.
Donc, ce n'est pas la seule polémique par rapport à ce jeu.
Déjà, c'est pas mal. Mais il y a déjà eu des jeux violents comme ça par le passé.
Voilà.
Le gros problème, c'est que le chef du studio, donc Jaroslaw Zielinski...
Oh, bravo.
Et apparemment, lorsqu'on fait quelques recherches sur Facebook, on le retrouve facilement assimilé à des groupes néo-nazis.
C'est un petit peu ça, ouais. Donc c'est un studio polonais, il y a quelques membres du studio qui sont proches des mouvances extrême droite, nostalgiques du Troisième Reich et compagnie.
Donc,
pour les Polonais, c'est très fort déjà.
On va voir même des groupes un peu communistes, bien purs et durs d'époque.
Et je me demande si l'accusation qu'on fait aujourd'hui, donc de tuer des gens et que ça a l'air réel... Est-ce que ça serait pas parce que les jeux sont de plus en plus réels, plus en plus réalistes?
Et encore celui-là, graphiquement, enfin, c'est une espèce de 3D isométrique, on n'est pas non plus en vue à la première personne, etc. Mais
t'as l'ambiance du jeu qui le rend malsain, et t'as vraiment le côté où, par là, tu vois, on a vu sur le trailer, par exemple, où il attrape quelqu'un par les cheveux alors qu'il est à terre, et qui lui défonce la tête à coup de fusil à pompe, avec l'imagerie de noir et blanc, côté l'éclatement de la tête, etc. Ça vaut rien, enfin... entre guillemets, au GTA 4 ou 3 qui avait été censuré dans les États aux États-Unis. Et là, c'est plus que du gore, par contre.
Ouais. En plus, il n'y a pas derrière dans GTA, tu peux tuer quelqu'un parce que t'es un méchant, tu tues un policier, ou t'es un policier, tu tues un méchant, etc. Là, c'est de la violence purement gratuite, quoi.
Alors, j'ai pas encore vu le but du jeu, mais le début de la partie, tu le vois, il sort de sa maison, il commence à désinguer tout ce qui bouge.
J'imagine que ça devait être tuer le plus de personnes possible.
Dans l'esprit postal.
Ouais, mais postal, encore postal. Il y avait un humour dedans.
Voilà, il y avait un petit côté.
Et même les développeurs s'étaient justifiés en disant c'est pas forcément un jeu violent, tu peux finir le jeu sans tuer personne, paraît-il.
Là j'avoue, il n'y a pas que ça à faire.
Dans celui-là, dans Hatred, je suis pas sûr.
Je pense que même l'intro,
rien que le nom du jeu déjà, à la haine.
Ouais. Ne parlant pas très anglais, je comprenais à la moitié ce qu'ils disaient, mais c'était limite, je suis en train de me préparer, je vais aller buter tout le monde, de toute façon, il n'y a plus que ça à faire, des trucs comme ça, quoi.
Ça m'a tout de suite fait penser à Columbine et compagnie aux tueries.
Ouais.
Alors c'est pas une vue à la première personne, c'est une vue... plus ou moins la troisième avec des...
C'est de la 3D...
avec de la caméra qui peut se relever.
Oui, caméra dynamique.
En tout cas, ce jeu sortira donc en 2015, trimestre de 2015. Et à mon avis, il sera censuré dans de nombreux pays.
Il y a toujours eu des polémiques, je me rappelle quand le premier Space Invader était sorti. Voilà, avec un tir, tu massacrais des dizaines d'aliens innocents. Qui venait peut-être pour envahir la planète, je sais pas moi. On parlait de Pac-Man la dernière fois, je sais pas.
Ces pauvres fantômes,
bon, si, quand même, mais on sait pas.
Après, si le jeu fait polémique, surtout le côté réalisme, dans Invader ou dans GTA, enfin, je sais pas, moi, mes Lego, ils étaient plus violents que ça, quoi, tu vois.
Et Bambi. Enfin bon, on ne rappelait pas de mauvais souvenirs.
Quoi, ils ont tué la mère.
Pas de spoil.
Désolé. Et Bambi 2, c'est le père qui passe.
Et on va parler d'un autre jeu, et cette fois-ci sur mobile. Et Dom, t'as dégoté un petit jeu mobile assez sympa, voire addictif.
Voilà, c'est souvent les jeux les plus simples et les plus légers et les plus grands qui peuvent te faire perdre le plus de temps.
Gagner, ouais, non.
Bon, là, c'est encore ça. Bah, moi, je suis peut-être celui qui a le moins joué autour de la table.
Alors, un principe très con et sûrement facile à expliquer.
Alors, on va essayer de faire simple. Il y a une grille sur votre écran de téléphone ou de tablette de 5 cases sur 5, avec une des cases au hasard qui est rouge, où il est écrit « tape », enfin parce qu'il faut taper dessus. Avec un petit, une petite barre qui progresse en dessous, un petit timer qui progresse en dessous de cette case. Et quand le timer est à fond, la case devient verte pendant quelques secondes et il faut cliquer dessus. Appuyer dessus, voilà, avec son doigt ou autre chose.
Son doigt.
Si vous savez le faire, envoyez-nous les photos avec vous, vous savez
et voilà.
Le faire.
Voilà. Et puis,
perso, faudra que j'achète un iPad.
elle redevient rouge. Et puis la petite barre réapparaît et quand elle redevient verte à nouveau, faut recliquer dessus et on attend. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a une deuxième petite case qui apparaît ailleurs au hasard. Et donc les deux cases viennent aléatoirement. Là où c'est méchant, c'est que la petite barre ne progresse pas toujours à la même vitesse. Des fois, elle ralentit, donc tu peux te faire piéger. Donc t'as tes deux cases rouges. Puis ensuite, il y a une troisième case rouge. Et alors, si t'es assez doué, une quatrième, etc. Donc toutes ces petites cases passent du rouge au vert. La partie s'arrête quand soit tu appuies sur une case rouge, soit tu oublies d'appuyer sur une case verte ou tu n'as pas le temps d'appuyer dessus.
Ah oui, donc appuyer sur une case rouge est éliminatoire.
La partie s'arrête tout de suite et il te dit voilà, vous avez fait une série de, je sais pas, 8, 48 ou 58 clics consécutifs.
Qui a essayé?
Là, pour moi, bon, je t'ai vu y jouer, c'était déjà pas mal.
Alors, c'est vraiment tout bête.
Je l'ai essayé une fois avant de commencer l'émission.
C'est relativement, je crois que c'est le jeu addictif du moment. On avait parlé du jeu 2048 dans une preuve.
Où t'assemblais des deux qui devenaient des quatre et t'as rassemblé.
C'est un jeu très simple, très léger qui se charge en deux secondes et voilà. La différence avec c'est que un jeu comme 2048,
tu dois réfléchir.
Tu dois un peu réfléchir.
Tu peux réfléchir
pas
comme tu peux jouer au réflexe, quoi.
Et c'est surtout que voilà, tu peux fermer ton téléphone et reprendre la partie plus tard. Là, non, tu peux pas. T'es un peu coincé devant ton écran. Faut même pas que quelqu'un te parle ou quoi que ce soit.
Tu peux mettre sur pause en bas, hein.
Ouais, mais c'est pas drôle.
Ça demande quand même une grande concentration, hein.
Ah, c'est vraiment ça. C'est un peu comme Tetris quand t'arrives au niveau 10-12. Les pièces vont tellement vite que tu ne réfléchis même plus. Ton cerveau passe en mode je ne sais pas quoi. Puis c'est tes doigts qui contrôlent tout.
Alors, c'est le genre de jeu, tu joues une semaine comme un accro. Et au bout d'un moment, tu regardes et tu fais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, sur des barres de chargement.
Ou alors, il y a un nouveau jeu qui apparaît.
Parce que le pire dans le jeu vidéo, c'est bien le chargement, on est d'accord. Là, comme si t'attendais que ça charge, et d'une fois que ça a chargé, tu dois appuyer.
Dis-toi, tu te venges justement de toutes ces barres de chargement que t'as eues à l'époque, tu pouvais rien faire.
Non, je pouvais faire cancel.
Ce qui m'a fait rire, c'est que le jeu, il n'y a pas plus simple à développer pratiquement, mais j'ai quand même vu deux patchs passer en deux jours. Je ne sais pas ce qui corrige derrière, c'est très fort. Pour l'instant, le record actuel détenu par un joueur humain serait de 244 clics consécutifs. Si vous essayez le jeu, vous allez voir que c'est énorme.
Je fais 55, ça reste faisable, 55. Donc
244. C'est dire quoi, 244 clics?
C'est-à-dire que la personne a réussi à cliquer 244 fois de suite quand les petites touches devenaient vertes, sans jamais se tromper. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il devrait y avoir plus de 10 cases à l'écran qui passent leur temps à clignoter, passer du rouge au vert, aléatoirement, et pas forcément synchronisé. Donc il faut avoir une super dextérité.
À mon avis, 244, tu dois avoir 24 cases sur l'écran, alors, ça doit être une case toutes les 10 secondes.
Ils jouaient à plusieurs, ils étaient 5, ils avaient chacun 5 doigts sur les cases, et... Non, même comme ça, c'est trop dur.
Une colonne,
C'est trop dur. Au moins de jouer sur un écran géant de genre 4 mètres sur 4, et de sauter sur place, une version grandeur nature. Non, je sais pas.
Un Twister.
Donc le jeu est gratuit, et apparemment la pub n'arrive qu'une fois que tu as le game over.
Gratuit, avec de la publicité, et effectivement quand la partie s'arrête, tu as tout de suite une publicité pour un autre jeu, etc. Alors, c'est très très malin, je trouve, de la part des développeurs, parce que comme pendant quelques minutes ou quelques secondes, selon ton niveau, tu as passé ton temps à attendre et à cliquer sur des choses qui bougeaient à l'écran, dès que la pub apparaît, par réflexe, tu appuies dessus. Et je trouve ça très malin de la part.
La pub qui charge, non.
Mais ça veut dire, plus tu es nul, plus tu vas regarder de la pub.
Oui, mais ça te motive.
Ça t'apprendra.
Ça te motive. Bon,
tu peux en vouloir qu'à toi-même.
Tu fais rarement 2-3 parties d'affilée, quoi. Surtout, j'imagine que quand tu arrives dans un certain niveau, t'as peut-être pas envie de recommencer tout de suite. C'est vraiment une espèce de challenge, peut-être. Soit avant de s'endormir ou matin en se levant, je sais pas, mais. Donc, pour te réveiller le cerveau, c'est pas mal.
Après, tu peux voir tes statistiques.
Tu peux voir ton maximum, ouais.
Je vous propose d'écouter peut-être un petit album découverte.
Ah, oh Dieu, oui.
Faudra pas qu'on oublie Pierre-Yves, qui doit nous attendre sur place.
On a beaucoup parlé.
Vu qu'il est en Bretagne, il doit sûrement être sous la pluie.
Voilà, on s'est fâché avec les Bretons. Oh, quoi que, je pense qu'ils ont l'habitude.
On se passe avec qui aujourd'hui. Il y a quoi comme catégorie de personnes qu'on n'a pas encore fait? On a fait les vieux. Je suis pas sûr, là.
Vu qu'on a fait les Bretons, on peut se faire les Normands, comme vous allez continuer à se foutre sur la gueule.
Alors, je ne sais pas qui l'a rajouté sur le drive, mais merci beaucoup, puisque nous avons Forever Gentleman, le deuxième opus.
Oui, on n'avait même pas parlé du premier, donc ça nous laisse un album potentiel.
C'est sorti quand, ça?
il est peut-être pas encore sorti, il sort ces jours-ci, je crois.
Donc, Forever Gentleman, à la base, ce sont des gars de la musique, hein, généralement française, qui se réunissent pour chanter des chansons.
Le thème, c'est Gentleman. C'est une espèce de quiz musical qu'ils nous font, mais voilà. Et donc, c'est des chansons de crooner, principalement, quoi.
Et dans la logique des suites, Forever Gentleman 2, eh ben, il y aura une fille.
Normal.
Ça dépend, hein, c'est peut-être Zaz, on sait pas.
C'est Claire Kame. Le 20 octobre, vous aurez la possibilité de retrouver donc cet album. Et entre autres, donc Corneille, Claire Kame, Rock Voisine.
Qui était dans le premier, je crois.
Bon, lui, il est partout, de toute façon. Dès qu'il y a un album de reprise, il est là.
Et dans le premier volume, il y avait Garou, Marc Lavoine, certainement.
C'est rare, hein, les albums de reprise en ce moment. Hein.
C'est vrai.
On a un peu que ça dans la
pile. Ouais, on en a qu'un ou deux par mois seulement, c'est cool.
Comme tout le monde innove, eux se sont dit, on va faire un album de reprise.
Tant qu'on n'arrive pas aux gens qui reprennent les albums de reprise, on a un petit peu de marge encore.
On a bien les remixes de reprise.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé donc le trailer, hein, où on voit Claire Kame et ses copains en train de présenter l'album. On les voit chanter au début. Et j'ai trouvé ça un peu trash.
Ouais.
Donc j'ai dû récupérer une version censurée. Oh. Malheureusement.
Rock Voisine.
Rock Voisine.
C'est le seul qui fait à peu près chanter en anglais.
Corneille. Oh. Et Claire Kame. Forever Gentleman 2. Alors j'ai pris le trailer, donc il y a une petite interview qui a malheureusement été censurée. Ah.
Pourquoi ? Ils étaient pas bourrés ?
Je sais pas, c'est que des beaux mecs, tous divinement, ils sont tous sympas. Bah on a un peu envie d'être avec eux quoi. On a envie de faire partie du groupe.
C'est la version censurée.
De réveiller cet instinct vital qu'on a tous. Il y a quelque chose d'extrêmement charmeur, d'extrêmement positif en fait. Voilà, moi j'ai besoin de ça.
Mais elle parle de quoi ?
C'est carrément une école en fait ce projet. On découvre les autres en se découvrant en même temps, puis on s'éclate. C'est génial.
Ça nous arrivera peut-être plus jamais, des choses comme ça.
Tu peux faire le Gentleman 3, s'il vous plaît ?
On pourrait peut-être s'écouter une vraie chanson des Gentlemen, non ?
Non, non.
Alors qu'est-ce que tu nous proposes ? Qu'est-ce qu'il y a au menu ?
Je pense qu'on a une dose, on passera en fin d'émission.
Non, non, attends, c'est des... Bon, à la base, c'est des belles chansons quand même. Non, c'est des reprises de quoi ? Frank Sinatra et compagnie ?
Ouais, on fait une petite pause, histoire de reprendre notre souffle avant la découverte d'une vraie chanson. On continue ce 30e épisode de l'Another Podcast. Et comme promis, une petite découverte de l'album Forever Gentleman. Et c'est Cheek to Cheek avec Corneille et Tal.
C'est la mode parce que pas longtemps, il y a Lady Gaga qui a sorti un album avec, ça devait être Polanka, je crois, de chansons classiques. La même chanson, elle s'est tue forcément.
C'est con de faire une suite sur un concept que t'abandonnes. Pour toujours des mecs et puis...
C'est une chanson que j'ai toujours aimée depuis toute petite. J'ai grandi avec cette chanson. À la maison, on l'écoutait souvent.
En fait, c'est un album de chansons et de paroles en même temps.
Peut-être déjà
c'est
pour
que des trailers. Hein.
L'illusion de presque avoir vécu dans cette époque-là, tellement je m'identifie à l'esthétique, au son, aux artistes.
Je me demande s'ils étaient en même temps dans le studio quand ils enregistraient.
Ah, c'est une bonne question.
Est-ce qu'on les voit ?
Non, ils sont tout seuls.
Est-ce que sur les vidéos, on les voit en même temps, l'un côté de l'autre ?
Non,
pas l'impression. Non, voilà. Donc on a compris.
Effectivement, encore un album de reprise de duo.
Ils vont faire la même chose que nous, ils vont faire ça par Skype.
C'est Lionel Richie qui faisait ça avec une bande de potes, mais par Skype.
Voilà.
On demandera à Pierre s'il ne veut pas nous chanter un petit coup tout à l'heure.
Il y a Grand Corps Malade à Roubaix ce week-end.
Voilà, pour d'autres infos surprenantes. Merci Laurent pour cette intervention.
En quoi ça intéresse nos auditeurs ? Coupez ça.
Ah, c'était pour vous.
Et je vous propose de faire une petite news insolite. Cette news s'intitule « Siri, mon meilleur ami ».
Alors, si on parle pas du pays qui est en guerre actuellement. Hein.
Nullement.
Siri, c'est le logiciel
sur Apple,
sur iPod, iPhone. C'est une espèce de petit logiciel. Il y a la même chose sur Android.
Ouais.
C'est un logiciel. Tu lui poses la question en parlant, dans le micro, en gros, et puis le Siri te répond.
Synthèse vocale.
Est-ce que tu me trouves beau? Et puis lui répond oui, je vous trouve vraiment très élégant.
Je sais pas si c'est une voix. On peut changer la voix, j'imagine.
On peut changer la voix.
Ouais, je pensais qu'il y avait Stephen Hawking à la table.
Eh, peut-être que Stephen Hawking utilise. Non, je ne sais pas.
Il y a peut-être des droits sur chaque utilisation.
Donc, ouais. Judith, qui est la mère de Gus, un enfant autiste, s'est rendu compte que le garçon faisait étrangement des progrès dernièrement. Et elle s'est rendu compte, c'est tout simplement puisqu'il commençait à parler à l'iPhone.
En fait, il avait surpris une conversation de sa mère avec le téléphone qui, je sais plus, elle avait vu une application amusante à la base qui est, avec Siri, tu peux lui demander, lui poser des questions, par exemple, quels sont les avions qui passent au-dessus de nous en ce moment? Donc, l'iPhone ou l'appareil calcule en fonction de la position, etc. Il va automatiquement sur les sites des aéroports et puis voilà, il te dit, il y a un avion, etc. Et il se trouve que le gamin a fait pareil. Il demandait, et sa mère lui dit, à quoi ça te sert de savoir quels sont les avions qui passent au-dessus? Et le gamin a répondu, quand je fais signe aux avions, comme ça, je sais qu'il y a dedans, quoi. Enfin, c'est un truc tout bête, bon, qui pour nous paraît un petit peu pas là, mais pour un enfant autiste de 13 ans, c'est quelque chose de peut-être super important, on ne sait pas. Et Siri, l'enfant, donc, a commencé à s'habituer à parler avec Siri qui lui répondait. Il lui demandait, Siri lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Peux-tu détourner cet avion?
Peut-être pas.
Ça tombe, c'est lui qui a fait pommer les deux.
Voilà. En fait, Siri, l'ordinateur, lui répondait, et l'enfant, petit à petit, a commencé pas développer une espèce de langage, mais une espèce de relation avec l'ordinateur qui lui a permis de s'ouvrir un peu plus, quoi.
Le Siri lui répondait de façon factuelle et limite pas forcément sèchement, mais ne s'emmerdait pas avec tout ce qui était le côté sociable.
Voilà, le logiciel suffisamment bien fait. Il lui demandait, par exemple, l'enfant lui demandait, ouais. Tu fais toujours des trucs pour moi, mais est-ce que moi je peux faire quelque chose pour toi? Et Siri, moi c'est pas la peine, je suis juste un ordinateur. Et quand il va se coucher, Siri lui dit bonne nuit, il lui dit, moi j'ai pas besoin de dormir, donc il répondait presque comme un humain, quoi. C'est mon thème.
Alors voilà, il faut quand même préciser deux choses. C'est que la première, c'est que c'est la version de Siri en anglais qui est beaucoup plus développée que celle qui existe en français. Et la deuxième, c'est que l'enfant de 13 ans a toujours su qu'il s'adressait à quelqu'un de non humain ou
absolument. Il lui parlait peut-être comme un animal, par exemple, je ne sais quoi. Il lui demandait, par exemple, il passait des journées à lui demander, à lui poser des questions sur les nuages, etc. Comment ils se forment, quelles sont les différentes formes de nuages, etc. Et au bout d'un moment, la mère s'est aperçue que, elle s'est rendue compte vraiment du changement quand elle parlait assez peu avec son enfant. Enfin, ils n'avaient pas des conversations très longues. Et une fois, ils ont eu une conversation de plusieurs minutes sur, c'est un sujet qui avait rien à voir, enfin, qui n'était pas intéressant, c'était sur les tortues. La couleur des tortues ou la forme des tortues, etc. Et elle explique que c'est la conversation la plus longue que j'ai eue avec mon fils, quoi. C'était pas forcément un sujet intéressant, mais elle se rendait compte des progrès.
Et l'avantage du téléphone aussi, c'est qu'il pouvait lui parler H24. Le téléphone se lâche jamais.
Et puis il va jamais se fâcher, ni rien du tout, quoi. Tu peux lui poser n'importe quoi, il va jamais être embarrassé par une question ou ne pas savoir répondre.
Une dernière petite news et ensuite on attaque le fameux salon sur le jeu de plateau. Et on aura avec nous Pierre-Yves qui s'est rendu sur place.
Ah, le chanceux.
Et la dernière petite news va vous expliquer que menacer de mort le patron de Steam n'est pas une très bonne idée.
Je comprends vraiment pas pourquoi. Surtout quand t'es créateur de jeux vidéo.
Alors la news est assez simple. Nous avons Mike Molbeck qui est tout simplement le développeur de Paranautical Activity.
Ça fait envie comme jeu.
C'est clair. Direct.
C'est quoi ça?
Alors, c'est une sorte de FPS avec un petit style Minecraft.
En aquarium, non?
Et en fait, le but du jeu est assez simple. Vous apparaissez avec une arme aléatoire, quelques munitions, un nombre de points de vie, et vous retrouvez dans une salle. Vous videz cette salle et vous pouvez en accéder à une autre. Ça me fait un peu penser au film Cube.
Oui.
Et une fois que vous entrez dans la nouvelle salle, vous devez la vider avant de pouvoir en passer une autre. Mais vous avez 4 salles à choisir avant, sachant que vous ne pourrez sûrement pas faire demi-tour avant d'avoir vidé la salle. Donc un petit jeu avec un concept sympa. Mike avait décidé de publier son jeu sur Steam. Mmh. Le problème, c'est que lorsque le jeu est sorti sur Steam, il s'est retrouvé en accès accès anticipé.
Oui.
Et l'autre a dit, mais non, mon jeu est fini. Il a commencé à lancer une petite slave d'insultes sur Twitter. et notamment des insultes de mort au bout d'un moment.
Oh.
Notamment, c'était « Je vais vous tuer, Gabe Newell ».
Gabe Newell, c'est le patron de Valve, enfin de Steam.
Il va mourir.
Oui, c'est clair, là.
Bon, il a dit ça sous le ton de l'énervement. Et bon, effectivement, après, il s'est notifié auprès de Steam en disant « c'est pas ce que je pensais, hein, j'étais tout simplement énervé ». Mais Steam a tout simplement retiré le jeu de son catalogue de jeux vidéo.
Mais ils s'en sortent bien, les gens. Imagine que c'était les développeurs polonais du jeu Etrid, là. Parce que eux, s'ils avaient fait des menaces de mort, ils les auraient. Je ne sais même pas s'ils seraient passés directement par les menaces de mort. Ils seraient peut-être allés tuer directement le boss.
C'est pas beau.
Mais ce qui est étonnant, justement, c'est qu'ils n'ont fait que retirer le jeu du catalogue. Ils n'ont pas fait de porter plainte ou autre, connaissant le pointilleux juridique américain ou autre.
Si tu veux porter plainte chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit un truc comme ça sur Twitter, t'as pas fini. Hein.
Après, tout dépend comment il s'est excusé derrière, ouais. Hors tweet, on va dire.
Je vous propose de faire une petite page de pub et on...
Album découverte.
Un petit album découverte.
Ouais.
Et on va surtout se mettre en connexion avec Pierre-Yves pour parler du salon du jeu de société.
Profite aussi de l'album découverte.
À toutes. Vous êtes toujours sur la radio Bellafonte en compagnie de Laurent Reynal, de Dominique et moi-même. Et nous avons en direct de la Bretagne Pierre-Yves. Salut Pierre-Yves.
Ouais, bonsoir à tous.
Ouais, salut.
Alors Pierre-Yves, tu as eu la chance et l'occasion d'aller visiter le plus grand salon de jeux de société au monde, le salon d'Essen. C'est en Allemagne, c'est bien ça?
C'est en Allemagne, tout à fait. C'est dans la Ruhr, donc une formidable zone industrielle. Pour chercher les arbres, il faut faire quelques kilomètres, mais bon.
Donc toutes les grosses boîtes de jeux de société se réunissent. Ça représente combien de personnes à l'année, ça, environ?
Ouf, plusieurs milliers de personnes. Je vais dire peut-être 10 000, 15 000 personnes par jour. En sachant que le salon est ouvert 4 jours pour les particuliers.
Alors c'est le genre de salon où tu dois réserver ton hôtel pour plusieurs jours?
Oui, effectivement, c'est préférable. Bon.
Il faut y aller.
Après, les hôtels, ça se trouve. Ou sinon, nous, on prend un gîte. Hein, mais
faut y aller avec une voiture et un grand coffre.
Surtout le coffre.
Oui, ah, mais là-bas, les Allemands, puis bon, les étrangers aussi, à force, quand ils viennent, c'est un peu comme qu'on voyait les vieilles mamies qui vont faire leurs courses avec leur chariot. Bah, c'est un peu pareil. Donc, vous voyez des gens arriver le chariot vide et une heure ou deux après repartir le chariot plein, ils vendent leur voiture, ils mettent tout dans le coffre et puis ils reviennent et puis ça achète des jeux.
Alors, est-ce que les jeux sont moins chers ou c'est quasiment les mêmes prix que dans les boutiques?
Certains peuvent être moins chers, mais pas les jeux neufs. Ce sont plutôt les jeux qui ont 2-3 ans, voire plus. Où là, oui, on peut avoir des belles ristournes. Admettons un jeu comme Rialto, donc, qui est sorti il y a un an ou deux, était à 18 euros, par exemple. Alors que normalement, c'est plutôt le genre de jeu neuf qui en vaut 40-45. Donc oui, il peut y avoir des belles promos. Ça, c'est vrai.
Donc en plus des nouvelles découvertes, c'est vrai qu'on renflue les armoires de jeux de société.
Oui.
Est-ce que tu as fait des petites découvertes d'ailleurs par rapport aux jeux de société?
Oui, j'ai fait des petites découvertes. Généralement, bon, les grands jeux, bon, c'est pas intéressant de les tester parce qu'on peut les tester par ailleurs. Comme il y a beaucoup de sons, quand c'est admettons un tchèque ou je sais pas un japonais qui vous explique un jeu en anglais que vous devez traduire après en français, bon, c'est pas les meilleures conditions pour comprendre les règles, pour tester un jeu, donc c'est mieux de faire des petits jeux simples, c'est un peu des découvertes. Et oui, j'ai fait des jeux, enfin, comment dire, des découvertes, donc de bonnes et de moins bonnes, parce que bon, y a pas que du bon, hein. Mais par exemple, l'un des jeux que j'ai testé, j'ai oublié son nom, mais peu importe de toute façon. En fait, c'était un jeu de cartes, où donc les cartes, ce sont des chats, et vous devez en gros faire un peu des combinaisons de chats, donc par famille. Comment dire, quand vous avez des cartes en main qui vous pèsent pas, donc vous pouvez en défausser. Et du coup, les autres joueurs, s'ils sont intéressés par vos cartes chats, bah, ils crient « miaou » et ils peuvent aller dans la pioche récupérer les cartes chats.
Super.
Et quand à la fin, vous arrivez à faire une combinaison, bah, là, vous devez dire « miaou, miaou, miaou » et poser vos cartes. Et l'idée, en fait, c'est un peu comment dire, des rencontres entre chats. C'est-à-dire que quand vous réussissez ça, vous prenez une carte cœur, donc que vous mélangez aux cartes que vous avez posées sur la table. Et un adversaire après tire une carte au pif. Si c'est la carte cœur que vous venez de mettre, vous avez gagné. Sinon, bah c'est pas grave, vous retournez pour un tour, mais sauf que la prochaine fois que vous faites une combinaison, vous repiochez une carte cœur, donc ce coup-ci vous en avez deux dans votre main, et au fur et à mesure, en fait, ça augmente vos probabilités qu'un adversaire tire une carte cœur. c'est amusant 5 minutes, quoi, quand on crie miaou, miaou, miaou. Bon, après, on dit, bon, passons à autre chose.
En allemand.
Laisse-moi deviner, c'est un jeu japonais.
Alors, c'est un jeu coréen même, coréen.
Wow. Ah, pas loin, pas loin. Alors, vu qu'on parle de différentes nationalités, ce salon donc de SN 2014, il y avait plus de 41 nations qui étaient représentées, quand même. Ça représente 150 000 visiteurs.
Ah oui, 150 000, donc c'était très loin. Enfin, c'est grand, hein. C'est grand.
Alors,
c'est
si... grand. Parce qu'il y a des gens qui vont là-bas pour 4-5 jours, quasiment.
Ah bah, moi, quand j'y vais, oui, c'était 4 jours. La plupart des étrangers qui y vont pour les 4 jours. Ça, c'est clair.
Alors, à savoir
les Allemands, eux, comme souvent, c'est pendant les vacances, ils y vont une journée, deux journées le week-end, admettons. C'est vrai que le samedi et le dimanche, il y a beaucoup plus de gens, notamment des enfants en bas âge. Alors que le jeudi et le vendredi, c'est plutôt pour les plus gros joueurs. Mais le tour complet du salon, allez, on va dire qu'en une demi-journée, tu peux, en marchant vite, en t'arrêtant 10 secondes devant chaque stand et pas plus, je pense que tu peux tout balayer, mais vraiment en une demi-journée, mais t'as c'est rien pas... vu des jeux, ouais, t'as rien testé. Ça, c'est clair.
Ouais. Voilà, ouais, tester un jeu, ça peut te prendre entre 20 minutes et très longtemps.
Oui.
Ah, est-ce que t'as vu des joueurs de Dune?
Non, j'ai pas vu, je suis désolé, François.
Merde.
Est-ce qu'il est obligatoire de parler allemand?
Non, non, et absolument pas, parce que même si j'ai fait 7 ans d'allemand, à part dire Entschuldigung, donc pour dire pardon, j'ai pas dit grand chose d'autre en allemand. Et il y a un jeu qui pourtant est un jeu français édité par Matago, mais qu'on avait testé chez un autre éditeur, donc il s'appelle Corrigans, qui a dû nous être mal expliqué, parce que quand on a joué, on a trouvé qu'il était buggé. Donc buggé au niveau des règles. Et généralement, quand c'est comme ça, c'est parce qu'il y a des règles qui ont été mal expliquées ou qu'on les a mal comprises. C'est vrai que la façon dont la personne explique les règles, ça change beaucoup le sentiment, l'impression qu'on a sur le jeu tout de suite. Ça, c'est clair.
Ouais, c'est sûr. Si tu te dis, ouais, il y a une faille dans le jeu, ça te donne pas forcément envie de jouer.
Mais là, par exemple, on a pu se faire expliquer les règles du jeu Colt Express par l'auteur du jeu qui est Christophe Rimbaud.
C'est génial, ça.
Et qui, pour la petite histoire, en plus, il était avec nous dans l'appart, donc tous les soirs, on pouvait discuter avec lui, donc il est super sympa. C'est aussi l'auteur d'un jeu qui s'appelle Sandwich, que vous
connaissez
tous. Oh,
le jeu préféré de Dom.
Et voilà. Donc, Christophe vient de sortir Colt Express. Et c'est vrai que quand on a pu le tester, bah, donc, chez nous, dans, le soir, hein, donc, on louait un appart, directement par l'auteur, avec, donc, le décor, les boîtes du jeu, tout ça, il est super beau. C'est vrai qu'on rentre beaucoup plus dans le thème. C'est plus facile quand c'est un Français qui vous l'explique que quand, donc, c'est quelqu'un d'un pays lointain qui vous donne les règles.
Autre question pratique, t'es parti combien de jours là-bas?
On est parti le mercredi parce que depuis Quimper, ouais, il faut presque 8 heures de train.
Et t'as dormi, t'as dormi combien de temps sur place? Parce que en sortant du salon, le soir, tu joues forcément.
Bah oui, oui, il faut découvrir les jeux, enfin, ça, c'est
manges,
clair.
Tu manges,
ça,
tu bois de la bière, normal. Tu manges, tu bois de la bière et tu joues.
Oui, 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 tout à fait. En sachant qu'en plus, bon, on avait amené du vin de France aussi. Ouais, mais le salon ouvre à 10 heures et se termine à 19 heures tous les jours. Sauf le dimanche, ça s'amène à 18 heures, mais bon. Donc c'est 10-19, en sachant que bon, quand tu marches pas mal, après t'es un peu naze, donc t'aimes bien t'asseoir, même si le jeu est pourri, t'aimes bien t'asseoir, c'est un jeu.
C'est l'excuse. Et généralement, où est-ce qu'il reste de la place, c'est où il y a les jeux pourris?
Alors des jeux pourris ou des petits jeux, mais parfois il y a des bonnes découvertes.
Tu peux rencontrer des petits éditeurs japonais?
Ça vient du monde entier.
Les micro-éditions. Ouais.
Alors, des Allemands, je les connais pas trop, mais des Français, il y en avait, parce que j'y suis avec des amis qui connaissaient bien ces éditeurs, donc des petits éditeurs français, il y en a. Et on a aussi rencontré, donc, bah, je disais, des éditeurs coréens, des éditeurs japonais, où en fait, eux, quand ils viennent, ils mettent tous les jeux dans une valise, donc ça vient par l'avion, et du coup, leur place est très limitée. Comme en plus, il y a des précommandes, ce qui fait que très rapidement, au bout de 3 ou 4 heures, bah, ils ont déjà vendu tous leurs jeux, parce que comme c'est pas des stocks illimités, puis qu'il y a un peu de pub, tout ça, de teasing, très rapidement, donc les...
Ouais, parce que, une des particularités, c'est que de nombreux, vu que SN, c'est le salon le plus important, c'est une date importante, il y a beaucoup d'éditeurs qui attendent, enfin, qui fixent comme date de sortie pour leur jeu, le salon des SN, en avant-première des fois, donc tu peux précommander les jeux auprès des éditeurs, et tu viens chercher ton jeu carrément sur le salon des SN. En plus, tu peux le faire dédicacer, etc.
Avec une petite signature, je vois, c'est ce que je me dis, ouais.
Et c'est vraiment la référence.
Tout à fait. Ouais. Par exemple, l'éditeur japonais de Love Letters a sorti des suites. Et là, il y avait, dès le premier jour, dès le jeudi matin, il y avait une queue de 15-20 mètres pour accéder à ce stand. Et 3-4 heures plus tard, tout était sold out.
Et dans
ils n'ont pas des quantités phénoménales, mais ça se vend très bien du coup.
Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font du stand?
Ah bah, ils ont quand même des exemplaires de démo pour présenter aux gens. Et après, plus tard, ça peut faire de nouvelles rééditions. Donc les gens achèteront plus tard.
Et puis ils viennent aussi pour présenter leurs jeux aux éditeurs locaux, quoi. Parce que c'est aussi un salon, c'est un salon public, mais il y a aussi une partie professionnelle, bien sûr.
Oui. Oui, oui, il y a des salles qui sont réservées auxquelles on n'a pas accès en tant que particulier. Mais bah, par exemple, on prend Asmodée, n'importe qui, les grands éditeurs rencontrent les auteurs de France ou d'Allemagne et autres et proposent d'éditer leurs jeux, de le distribuer dans d'autres pays que le pays d'origine.
Alors, j'ai vu qu'il y avait dernièrement le Spiel qui avait révélé les meilleurs jeux. Alors, le Spiel, c'est plus ou moins les récompenses allemandes c'est des meilleurs jeux de société.
C'est l'Oscar. On ne peut pas comparer ça au cinéma. Si la Salon des Scènes, c'est le Festival de Cannes, plus Hollywood, plus les Oscars réunis, le Spiel, c'est ça, c'est les Oscars, quoi.
Est-ce que tu sais qui est le gagnant du Spiel, Pierre-Yves?
C'est pas Camelot?
Camelot, effectivement. Est-ce que selon toi, ça leur a bénéficié au niveau du Salon des Scènes ou?
Oui. Oui, parce qu'en plus, quand tu as le Spiel, tu es obligé de pouvoir mettre à disposition, je pense, ça va être 20 ou 30 000 boîtes pour pouvoir les vendre sur le salon. Comme je disais, par exemple, si on revient sur Colt Express, pour les Français, ils étaient venus, ils ont vendu 850 boîtes. C'est un jeu qui a très bien marché. Et donc, Colt Express, dans le monde complet, c'est 14 000 boîtes qui sont sorties. Donc, quand on dit qu'un jeu qui a le Spiel, c'est minimum assuré 30 000 boîtes, enfin, vous voyez, pour un jeu comme Colt Express qui a très bien marché, où ils sont partis que pour 14 000 boîtes, là, quand le Spiel, c'est minimum 30 000, oui, c'est clair qu'en termes de chiffre d'affaires,
c'est
multiplié par 4 ou 5.
Donc, Dom, tu dis n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec les Oscars. C'est parce pire. Que généralement, quand tu as les Oscars, ton film, il fait plus d'entrée.
La différence, voilà, c'est ça. La différence, c'est que les Oscars, on récompense les films qui sont déjà sortis. Tandis que là...
c'est ce qu'on disait lors d'une ancienne émission, c'est que les Allemands, ils sont tellement, c'est tellement dans leur nature de jouer... quand ils doivent choisir leur prochain achat, ils vont pas se casser la tête, ils vont choisir le Spiel parce que il a été donc désigné.
T'es sûr d'en vendre.
Voilà, donc t'es sûr de voilà.
Tu vas pas forcément le vendre au tarif plein, mais tu vas en vendre beaucoup.
Tu vas en vendre, voilà.
Prenez l'année dernière Anabi qui, bon, c'est amusant, mais c'est un jeu français. Mais comme le nombre de ventes en France n'est pas aussi élevé qu'en Allemagne, le prix français, c'est plutôt de l'ordre de 12 à 15 euros. En Allemagne, comme ils en éditent beaucoup plus, le prix de la vente, c'est plutôt 9 euros. Et ils ont dû en vendre, je me demande si on n'a pas atteint les 100 000, parce que c'est un petit jeu, ça passe super bien. C'est vrai que les gens achètent facilement. Cette année, on pouvait le trouver à 6 euros. Mais bon, un jeu comme ça, sur plusieurs années, on est sûr d'en vendre et c'est intéressant. Pour des gens qui jouent pas trop à des jeux, c'est intéressant d'avoir ça. Donc oui, là, c'est des ventes assurées, on dépasse 100 000 ventes, ça c'est sûr.
Ouais, puis c'est du petit matériel, donc c'est vite réédité pour pas très cher et donc facilement refourgable à la vente.
C'est la première fois que tu y allais ou?
Non, c'est la cinquième.
Ah ouais, donc t'es un habitué. Je
commence à être un peu habitué, tout à fait. Effectivement.
T'as ta place de parking. Ouais,
tu pourras nous servir de guide pour l'année prochaine.
T'as plus de place chez toi, par contre.
Je peux vous servir de guide. Et la première chose, justement, c'est qu'en fait, là, on s'est arrangé pour tout faire en transport en commun pour plus y aller en voiture. Parce qu'au début, on faisait ça, sauf que le matin, il y avait la queue. Le parking, bon, c'était 5 heures la journée. Bon, c'est pas énorme, mais bon. Et en transport en commun, en fait, ça se fait super bien. C'est en Allemagne, hein, donc c'est l'organisation allemande. Donc, c'est carré, ça marche.
Ils aiment bien,
bien
les trains là-bas. Hein.
Non. Ça, on va devoir couper ça. On a déjà parlé d'un jeu néo-nazi polonais dans notre émission. Là, on peut plus là.
Non, puis, il y avait grève des trains en plus ce week-end, mais bon.
En plus, il paraît, ouais.
Ça a eu plus de
non, faudra couper
ça. Il y avait plus de charbon.
C'est pas possible.
Donc, vaut mieux aller en train ensuite.
Oui. En fait, on y allait en train via le Thalys, donc il y a les Thalys qui font Paris et Essen. Et après, donc, on s'est trouvé un appart. Donc on y allait en métro et après effectivement en métro tram, on était à une demi-heure du salon à tout casser. Donc ça c'est génial.
Avec les sacs remplis, avec les mains remplies de sacs remplis de jeux.
Et ouais, parce qu'en plus mes potes qui y sont allés, ils sont venus avec des jeux parce que du coup c'est aussi un endroit où tu peux revendre des jeux au début.
Ah pas mal.
Pendant tout le salon. Donc du coup ils sont venus, ils avaient des valises pleines, ils sont partis, ils avaient des valises encore plus pleines.
Mais avec d'autres jeux, c'est pas mal.
Ouais, c'est vrai qu'il y a même certains sites francophones sur le net qui proposent des jeux qui vont se retrouver là-bas sur Essen. Et donc, c'est comme dans tous les salons, ils se retrouvent pour dire je vais à Essen, donc on peut déjà s'échanger tel jeu là-bas, alors que le jeu n'est pas à Essen. Ils se font de la main à la main. Et...
Alors, ouais. Au niveau de l'ambiance, est-ce que c'est un peu comme dans les festivals à style Japan Expo où il y a plein de geeks? Est-ce qu'il y a des cosplays? Est-ce qu'il y a.
Va te déguiser en Mipel.
Mais je trouve que depuis 2 ans, il y en a moins que les années d'avant. Les années d'avant, souvent, le midi, tu voyais des gens donc déguisés qui faisaient des combats d'épée et autres. Donc bon, il y a des ventes hein, de costumes, d'armes en plastique et
tout
ça.
Dans les jeux de société, tu as les jeux de plateau classiques. Tu as aussi des grosses parties pour les jeux pour enfants. Tout ce qui est jeux de guerre, jeux de cartes et compagnie.
Tu as les grands jeux d'extérieur aussi, ouais.
Tout ça, il y a. Tu as même quelques stands, Warhammer et compagnie. Bon, pas énorme, mais tu en as un petit peu. Par contre, le cosplay, il y en avait nettement moins, je trouve, que la première fois où j'y suis allé en 2009. ça baisse par contre.
Alors est-ce que ça fait pas plus grand magasin que grand festival? C'est ça que je suis en train de me demander du coup.
C'est tellement grand, il doit y avoir de tout.
Alors grand magasin, bon, t'as pas mal de revendeurs, mais ça fait quand même grand festival où tu peux tester des protos, tu peux voir les éditeurs, les auteurs de jeux. Tu peux quand même tester des jeux, donc...
T'as d'autres animations, ouais, des petits concerts, une scène où il passe des choses ou...
Non, t'as pas de concert. Par contre, il y a des endroits où les halls sont... T'as de la place par rapport au plafond. Et du coup, tu peux faire plutôt des jeux type extérieur. Donc, par exemple, les espèces de trampolines et autres. Ça, il y en a aussi quelques-uns sur le salon.
T'as pas testé ton jeu de quilles dont tu nous parlais la dernière fois?
Non, mais on pouvait jouer au Molcube, par exemple.
Mais il n'y a pas que des grands éditeurs. Est-ce que, justement, tous les créateurs de jeux, les petits créateurs, peuvent aussi avoir un stand où ils présentent leurs jeux ou...
Ah oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Bon, après, combien coûte un stand, je ne sais pas, je pense que ça dépend.
J'imagine que, déjà, sur un salon de deux jours, c'est assez crevant. J'imagine, sur 4-5 jours, ça doit être impossible pour un particulier d'assurer, quoi.
Bah, en fait, ça dépend après si tu fais de l'auto-édition ou si tu fais de la micro-édition. Enfin, normalement, il y a un hall qui est réservé pour ce genre de type d'édition, non?
Alors, auto-édition, pas un hall réservé, je pense que ça peut être n'importe qui loue un stand et qui peut faire son auto-édition. Ça, il y en a. Mais généralement, par exemple, les Français, comme ils ne sont pas beaucoup, ils se regroupent tous ensemble et ils louent tous ensemble un plus grand stand, en fait.
Ouais, avec le French bashing qu'il y a dernièrement, c'est peut-être pas une bonne idée.
Ouais, les Français sont bien vus dans le monde du jeu de société.
Alors, non seulement les Français sont bien vus, mais si on regarde le classement de BGG, quand on regarde les 5 premiers, donc le premier c'est Alchemist, qui est un jeu tchèque. Alors celui-là, j'ai pas pu y jouer, mais on commence. Ça, c'est des jeux où ça commence à jouer avec des smartphones.
Ah, ouais, ça commence à venir là, oui.
Ouais, ça commence à venir. Après, le deuxième c'est Historia, qui est un jeu italien. Le troisième, c'est Deus, qui est un jeu belge. Le quatrième, c'est Five Tribes, qui est un jeu français. Le cinquième, c'est Hyperborea, qui est un jeu italien. Donc déjà, il n'y a pas de jeu allemand. Beaucoup de jeux européens.
Déjà, ils commencent à l'avoir un peu dur, les Allemands, là.
Oui.
Les Allemands, ils sont quand même un peu, on va dire, sur le, pas forcément le déclin, mais ils stagnent sur leurs acquis. Alors que nous, on est en plein développement dans le
sport du jeu. Ils ont un peu de retard. Ils avaient presque le monopole du jeu en Allemagne, en Europe. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils stagnaient, quoi. Donc,
en fait, nous, on les a pris comme référence, comme modèle, mais maintenant, on se développe par nous-mêmes.
Voilà.
L'élève dépasse le maître.
Ouais, c'est plus la quantité que la qualité, quoi.
Non seulement ça, puis bon, les jeux allemands, c'est très souvent, c'est une mécanique avec un thème qui est plaqué.
Ouais.
Je pense qu'aujourd'hui, bon, il y a des joueurs, ça leur plaît toujours, hein, mais je pense que le public, lui, ce qu'il aime bien, c'est voir un thème. Et puis bon, après, avec la mécanique associée, mais c'est d'abord le thème qui est recherché. Par exemple, je parlais de Colt Express avec Christophe Rimbaud. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'abord le thème. Il a déjà des idées de prochains jeux et il a vraiment le thème en tête. Pas forcément la mécanique, mais le thème. Du coup, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui accrochent de plus en plus à ça. Visuellement, l'impact est important aussi. Vous prenez un jeu de Friedman Friese, donc genre l'auteur de Megawatt et tout, ces jeux, ils sont moches.
Bah oui.
Ça, vous prenez
c'est
Stephen
spécial.
Feld. Oui, voilà, oui.
Bon, en même temps, c'est ça touche à lui.
Oui,
hein.
Stephen Feld, ces jeux ne sont pas conçus, enfin, ne sont pas connus pour être très beaux. Vous prenez Colt Express, quand vous voyez la loco qui est montée en carton, tout ça, bah, ça a de la gueule. Donc bon, je pense que c'est là où on commence à être meilleur aussi sur la thématique, puis sur tout ce qui est décor, visuel du jeu.
Je pense qu'on te rejoindra l'année prochaine. Hein.
Ah ben, on peut.
Faudra prendre des chambres plus grandes.
Et puis nous on ira en voiture hein, parce que les coffres vont être remplis.
Un pick-up,
hein.
Un bus.
Alors cette année.
Ah, depuis Lille en 4h, 4h30, ça se fait. Hein, donc depuis Lille, c'est très bien.
Et je pense que ça serait plus rapide en voiture du coup. Enfin.
Oui, oui. Je tiens juste à noter, cette année sur le salon, il y avait pas mal de jeux de foot. Alors est-ce que
normal.
C'est parce que l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde?
Normal.
Je pense qu'il y a un peu des deux quand même. Hein. Je pense qu'il y a un peu de ça.
Mais bizarre, tous les éditeurs sont allemands, c'est ça?
Oui, bah oui. Mais oui.
Bah, cette année, c'est tombé en même temps que la FACTS, donc il y a un peu le salon du comics qui se situe à Gand, donc en Belgique. Donc nous, on a fait ce salon-là, on en parlera rapidement donc, lors de la prochaine émission. Mais c'est vrai que ce salon de jeux de société me tente énormément.
Et on peut s'inscrire pour l'année prochaine, c'est pas un souci.
Mais je pense que ça doit être quand même une épreuve hein, avec tout le monde. Alors, est-ce que t'attends vraiment pendant l'événement?
Si tu veux tester des gros jeux, tu risques d'attendre très longtemps. C'est pour ça que nous, on s'est dit, bon, ça ne sert à rien de passer son temps une heure de queue, voire plus, pour avoir un jeu avec des explications de règles qui durent une demi-heure, trois quarts d'heure où on comprend mal, et puis finalement on ne peut pas plaisir. Donc on y va plus pour tester des petits jeux, des petits coups de cœur. Donc comme je disais, il y a des jeux un peu spéciaux, comme donc l'histoire des jeux de chat et les créer miaou. Après, on peut faire des super découvertes, des petits jeux comme ça, quoi. Et honnêtement, on rigole bien. Ça fait des bons souvenirs.
Merci beaucoup de nous avoir rapporté tout ce qui s'est passé, enfin, en tout cas, ton expérience au niveau du salon de jeux de société.
Ben, j'espère vous avoir fait envie pour l'année prochaine.
L'année prochaine en direct.
Ouais, peut-être pas, on verra.
Ah, il y a moyen, il y a moyen.
Pour la 70e, on verra.
Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est y aller avec tous vos jeux et essayer de vous les faire dédicacer. Autrement, il faut racheter une boîte là-bas, faire dédicacer, c'est plus compliqué. Mais tous les grands noms français comme Boza, fait d'outils.
Ouais, bon, on peut les rencontrer en France, ça va encore.
Et monsieur Descartes, il est là.
Oui.
J'ai un jeu à lui faire signer.
Descartes n'existe plus, c'est fini.
Eh ben, je vous propose de faire une petite pause. Ensuite, il y a une dernière news insolite, le quiz musical proposé par Dom. Ouais. Pierre-Yves, encore merci de ta participation.
Mais de rien, c'est avec plaisir.
Et ben, peut-être en décembre, directement dans la Nozer Podcast, avec nous dans le
dans
studio.
Les intermittents arrivent, attention.
Oh non. Place au spectacle et on se retrouve juste après. Vous êtes toujours sur la radio Bellafontaine dans la Nozer Podcast. Et si vous êtes avec nous sur le chat, c'est bientôt l'heure du quiz musical proposé par Dominique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un thème?
Quelle journée?
Lundi.
Voilà.
Donc le thème, c'est le lundi. Avant d'attaquer le quiz musical, une exposition pour les fans de Big Bang Theory qui avait été montrée en Californie et elle s'exporte maintenant à l'étranger, et tant mieux pour nous, qui sera disponible à la Fnac des Halles à Paris. Donc pour vous, les fans de Big Bang Theory, bon, c'est Big Bang Theory, c'est la série ultime pour les geeks.
Ouais, j'avoue, ça parle un peu de tous les sujets. Ça parle un peu de ce qu'on fait, même des jeux de société, jeux vidéo, et tout. Ça aborde tous les sujets qu'on connaît. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une expo Big Bang Theory?
Alors, Big Bang Theory, il y a beaucoup de supports de type bande dessinée, etc., qui ont repris un peu les personnages de Big Bang Theory.
Non, parce que tu fais une expo Star Wars, tu mets des costumes et des vaisseaux. C'est déjà pas mal. Mais bon, les costumes de Big Bang Theory, c'est toujours les mêmes.
Là, c'est beaucoup de sortes de fan art, en fait, de tirer de la série, etc.
C'est plutôt un hommage.
Ouais, tout ce qui s'est fait autour, quoi.
Effectivement. Alors, ça peut toujours être intéressant, surtout pour les fans. Alors, vous ne rencontrerez pas les acteurs de la série sur place, hein, malheureusement. Et d'autant plus que, apparemment, les salaires des acteurs ont triplé.
Ah, tu m'étonnes.
Alors, ils étaient quasiment payés à environ 325 000 dollars et maintenant, ça passe à 1 million de dollars par épisode.
Pas mal.
Par épisode. Jordi, hein, pour...
Il y en a environ 24 par saison.
Ça va.
1 million pour taper sur une porte.
C'est sûr que... Mais, bon, ils vont rien faire d'autre dans leur vie. Chaque fois qu'on les verra, on pensera tout de suite à leur personnage de Big Bang Theory. Mais bon, ils s'en foutent, ils ont mis des millions de dollars de côté.
Mais quand tu vois, par exemple, Sheldon, lui a un Twitter où il prend le rôle de son personnage.
Ils sont à fond dedans. J'avoue qu'ils méritent le million de dollars.
Et c'est vrai que ça continue. Ils feront peut-être des podcasts après, ça tombe, ou d'autres choses qui font que...
Non, d'accord.
Mais je pense qu'ils risquent de rester bloqués dans leur personnage.
Il y a de fortes chances.
Voilà, c'est comme si on jouait dans la petite maison de la prairie, quoi.
Les jeunes filles qui ont joué dans Disney.
Voilà,
pardon.
Non.
Après, ils n'ont jamais eu des physiques pour tourner des films d'action non plus.
Quoi, non, on n'attaque pas le physique.
Ah, mais...
On avait dit pas les moments et pas le physique.
Donc voilà, l'exposition sera disponible du 7 au 26 novembre. L'exposition présentera entre autres diverses œuvres d'artistes inspirées par la série de Warner Bros. Bah, il est temps d'attaquer le quiz musical, c'est parti.
Ouais, le thème va être fixé par un grand artiste tout de suite.
Claude François.
Chuck Berry.
Écoutez-moi ces paroles. Et on va peut-être devoir la laisser en entier si personne ne trouve.
Ah, c'est français alors.
C'est français. Oui, bah oui.
Michel Jonas.
Je ne réponds même pas.
Danny Briand.
Ah, on approche. Au niveau de la banane, c'est pareil. Il avait tiré son pseudo.
Dick Rivers.
Non.
Ah, j'y ai pensé à Dick Rivers.
Non, mais c'est pas la voix de Dick Rivers en plus.
On est dans le même style de musique.
Danny Rivers.
Années 60 et compagnie.
Danny Vaillant.
Le pseudo, enfin le pseudo, le nom de scène de ces artistes, quand on parlait, c'est le nom. Alors c'est assez culte, c'est le nom du frère jumeau de Elvis Presley, qui est mort à la naissance, faut le savoir.
Et vous avez 2 heures.
Allez, 2 heures. Allez. Il a été connu que pour ce morceau-là, je pense.
Ah, c'est d'autant plus dur.
Mais je trouve pas le lundi, là.
C'est le titre de la chanson, c'est lundi. Ah.
Je donne ma langue au...
Renald, tu as le droit de tricher.
Sans me faire taper. C'est vrai. J'aurais pas trouvé.
Jesse Garon. Ah, non, le fameux Jesse Garon. Eh oui.
Wapitinko, ça commence, ça.
Ah, ça veut dire au niveau.
Il y en a des plus durs que ça.
C'est pas impossible.
On va donner un cadeau, mais la fonte,
mais ce qui est bien,
la plus dure.
Mais ce qui est bien, c'est que ça vous fait découvrir des artistes. Quand je dis artistes, ça me fait toujours un peu mal quand même.
Bon, en fait, je crois que je cherchais la.
J'ai trouvé la chanson que je vais garder pour la fin d'ailleurs.
Le vrai artiste de la chanson américaine ou autre, mais pas celui-là.
Générique d'une série télé. Alors c'est extrêmement difficile. Une chanson, une série avec Bernard Menez. Je vois que vous connaissez pas du tout en plus.
C'est mon lundi.
Bonjour en plus. J'aime bien parce que vous n'êtes pas capable de trouver. Alors elle vient de dire 25 fois au moins le nom de la série.
C'est lundi.
C'est lundi.
Mais non, mais c'était juste vivement lundi. C'était un petit clin d'œil à Bernard Menez. Grand... Voilà. On est quand même dans le haut niveau des artistes français là. Après, Jesse Garon, Bernard Menez.
Ça passait juste après vivement dimanche.
Hein. Pas mal.
Et mais juste avant, c'est mon mardi, tu vois.
Lol.
Bon là, normalement, ça doit fuser. Quoique.
5 secondes.
Ah, tout de suite, on change de catégorie. Hein.
Moi je sais, surtout qu'il y a le nom juste au-dessus de ta tête.
Ah bah oui, Fleetwood Mac.
Ah oui, c'est de la triche, mais non.
Donc dans le studio, il y a un vinyle de Fleetwood Mac, de leur album Rumors.
Studio, hein.
Et le morceau s'appelle Monday Morning, tout simplement.
Lundi matin. Je suis traducteur. Bon, hein.
Bravo.
On sait jamais s'il n'y a pas d'anglophone.
Je les connaissais pas, moi.
Pensez que notre expert anglais, c'était Reynald.
Oh yes.
On change carrément de catégorie musicale. Et le morceau s'appelle aussi Monday Morning. Tu veux que je monte le volume ? C'est du rap hein, quand même.
C'est quoi ? C'est un black ou une black qui chante ?
Jay-Z.
Là il commence. Bah alors c'est n'importe quel nom de rappeur américain, vous finirez par trouver.
Snoop Doggy Dogg.
Bob, Simple. C'est pas Simple,
c'est pas du Snoop.
Boob Doggy Dogg.
Il y a un chiffre dans son nom.
50 Cent.
Ah, pas loin. Merde. Non, si on est loin du
$1.
Tudor Cinema Club. Mais non, c'est pas du rap.
Tupac.
Tupac.
Bravo. Oh,
c'est qui Tupac?
La chance.
Excellent.
Presque sans tricher.
Tupac, c'est le mec, quand il va au supermarché, il prend pas le pack de 6, il déchire le paquet, il en prend le 2. C'est le connard de service, on appelle ça.
Ou alors s'il prend un pack, ça lui fait 3 soirs.
Changement d'ambiance, c'est terrible.
C'est dramatique.
C'est très dramatique.
Oh là là. Comment il s'appelle ?
Il a pensé encore à toute sa vie avec Léo Ferré. Et puis il a tourné enfin le
coin de la rue. Michel aurait voulu. Michel ?
Michel Delpech.
Bravo !
Merci Laurent.
Il prend son propre prénom, tu te rends compte ?
À peine égocentrique le gars.
Ça, tu finis la chanson, tu vas te chercher une corde sur jechercheunecorde.com, tu te prends.
Vous êtes toujours sur Radio François pour l'émission François.
Ah, mais c'est François.
Mais faire valoir aujourd'hui son.
On fera une émission spéciale Michel un jour.
On peut faire une émission spéciale prénom
sur Radio Béafond.
La chanson, c'est ce lundi-là.
la suivante.
Oh, non, on est bon là.
C'est comme les bisous avec Carlos.
Groupe anglais.
C'est du rock là.
Oui. C'est The Clash. Merde.
Non, ça joue trop bien avant que ça soit du Clash.
The Cure.
David Bowie. Ou Interpol.
Attends, moi je dirais
c'est
que
c'est quand même le chanson qui parle de lundi quand même.
C'est quoi, c'est un lundi
Iggy Pop.
Et la chanson s'appelle aussi Monday Morning, comme celle des Fleetwood Mac et de Tupac. J'aurais presque pu faire un quiz Monday Morning. Donc on passe le soir. On reconnaît un petit peu le son. Chanteur, Jarvis Cocker. Pulp.
Ça, c'est beau.
Pulp. Pulp, c'est pas facile.
On les a déjà passés dans un ou deux quiz. Un groupe de filles.
Les L5.
Un groupe de filles qu'on a déjà passé. S.O.B.
C'est pas si bien.
Pas mal.
Dès qu'elle apaise,
on a parlé de
moi, j'en suis, moi, j'ai des problèmes.
Prends peut-être un quiz spécial groupe de filles une fois, on sait pas. Il y a de quoi faire.
C'est un groupe alors.
Un groupe.
Monday morning.
Monday afternoon.
Oh.
Monday every night. Monday every day.
La chanson c'est Manic Monday.
Que de filles.
Ça serait qui est déjà passé dans un quiz.
Y a pas Stevie Nick qui chante quand même hein.
Non mais c'est les Bangles.
Bangles.
Il y a deux groupes de filles. Les Bangles, Bananarama. Bon, une fille tout seul. Attention, disco à la française.
Hein.
Et là, tout le monde danse sur sa chaise, c'est magnifique. Bon, disco française en anglais quand même.
Dalida ?
Ouais.
Oh,
bah oui.
On l'a pas encore entendu chanter, on va laisser.
Bah non. C'est bien.
Là, c'est juste la partie où il y a les danseurs à la.
Titi ?
À la Village People.
En truc moulant, là. Mm-hmm.
Bon, là, vous trouverez pas. Enfin, c'est pas connu. Non.
Bruce Springsteen.
C'est le genre de groupe, tu as entendu le nom quelque part.
Ou pas. Woke up on Monday.
Non, la chanson, c'est Maybe on Monday. Je suis pas triché.
Mais non. Skip the Use. On l'a vu à la friterie.
Pas mal. Ouais, on fera un quiz friterie un jour.
Avec le sandwich Skip the Use. Avec du maroilles, mais épicé.
Ah non. C'est un groupe qui s'appelle Calexico.
Calexico.
Ouais, je l'ai vu à la friperie aussi.
C'est vrai. Mais c'était pas avec du maroilles, c'était avec du bleu.
Alors je vois bien Dom en train de chercher sur Google Monte Song.
Non.
Et puis se dire.
Je connais
oh,
ce
je
groupe.
Connais pas.
Je connais ce groupe-là.
D'accord. Respect alors.
J'aime bien, c'est quand Dom il dit le prochain morceau. De toute façon,
on va ça. Hein,
vous ne trouverez pas. Pourquoi tu mets dans le quiz?
Pour les gens du chat.
Il y a des gens du chat qui sont très cultivés.
Déjà, hein. Déjà d'une part.
Culture
il faut faire découvrir.
Ah oui, ça c'est. Oh putain.
C'est. 5 secondes.
Le morceau s'appelle Blue Monday.
Ça date en plus, excellent.
Oh oui, ça date. Et c'est toujours bon.
Oh, putain.
Et ça monte en puissance. J'aurais peut-être mis pour la fin, mais j'ai mieux pour la fin.
Tu veux dire qu'après, c'est pas... il y a quelque chose d'autre ?
C'est SOS en morceau.
C'est pas Dépêche Mode ? In Excess ?
C'est un groupe qui a inspiré tous ces groupes-là.
David Lynch ?
The Smiths ?
Aïe, aïe,
aïe. J'étais jeune quand j'écoutais ça.
Tu passes ça en boîte maintenant, mais c'est la folie. Bonne musique d'auto-tamponneuse. C'est de la musique d'auto-tamponneuse. Mais c'est bon de la musique d'auto-tamponneuse. Ils n'ont pas encore commencé à chanter, vous avez vos chances.
Oh,
ça fait partie la culture qu'il faut avoir entendu au moins.
Dites-moi ça. Je crois que j'étais pas né. Hein.
Mais c'est pas une excuse. Les intros de 3 minutes.
Funky Town.
Bon, le morceau dure 7 minutes et demie.
Le pire, c'est que je connais, quoi.
Mais oui,
c'est
tu connais ça, forcément.
Mais, Blue Monday.
MGMT, Panic at the Disco.
François a dit qu'Internet était autorisé.
Non. Ah, faut qu'on entende la voix du chanteur. Hein. Un morceau de 7 minutes 30 avec 6 minutes d'intro, c'est de la triche.
New Order.
New Order.
Voilà.
Voilà.
Obligé de tricher pour ça, tu comprends.
Et moi,
j'ai pas triché.
Encore.
Alors. Il a pas sorti de
c'est Laurent qui a triché pour moi. C'est vrai que New Order, on aurait pu trouver. C'était dans les trouvables.
Pas moyen de m'en souvenir.
On revient chez les Français.
L'oiseau, ça fait longtemps que j'ai pas vu d'oiseau.
Ah oui.
Oh putain.
Monde massacre.
Bah, je comprends le titre. Hein.
Fatal Bazooka.
Baissez vos basses là. Comment s'appelle cette comment
c'est pas c'est... Une non c'est une peluche
c'est une peluche
c'est une peluche c'est ah
Casimir
non
Ted
non non c'est putain mais mémoire de poisson rouge c'est
Teletubbies
non non
je vois bien ça en générique tu sais les pop gosses Bambi
là c'est tous les auditeurs qui ont baissé leur qui ont enlevé leur casque à cause des basses.
Elle a vite capé.
Alors, c'est une peluche orange et jaune en plus.
Surtout jaune. Il le dit ouais, son nom au début. En
Pikachu
plus.
Non, non.
Je vois des oiseaux partout.
Titi,
Calimero.
Putain, Renan, la couche là.
Ouais, mais j'ai une mémoire de poisson rouge dès que je passe de.
Un poisson minutes. Rouge célèbre.
Non, 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 c'est un oiseau, c'est.
La peluche s'appelle Flat Eric.
Voilà, et c'est. Et j'allais dire c'est Flat quelque chose.
Le DJ, mais, on va dire l'artiste Mister.
Mister Oiseau.
Mister Oiseau, voilà.
Mais moi, ouais, je cherchais le nom de la pluche, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais, ça date de il y a 14 ans maintenant, ce truc-là.
Ouais, il y a trop longtemps, sûrement.
Bah, c'est bien.
Ouais. 14-12 ans.
Oh, tu veux remonter plus loin dans le temps? Lundi, ouais. Lundi.
Lundi, lundi.
On a deux lundis pour le prix d'un, là.
Là, si tu me dis que tu connaissais le groupe.
Oh. Ah oui.
Ouais.
Ah oui, alors.
Ah oui, là, on doit connaître normalement.
Les ABBA américains, on va dire. Sauf que les gars chantent dans ce groupe là. Monday Monday.
Le seul truc qu'on peut trouver, il nous le spoil.
Ouais, tu m'as dit américain,
ouais, je connais en plus, ouais. Ouais, pareil.
Tout le monde connaît, tout le monde a entendu ça au moins une fois. Ça a été repris tellement de fois en plus.
J'ai pas encore entendu et que je connais pas le groupe, je fais grève.
Simon & Garfunkel.
On est à la même époque, sauf que Simon & Garfunkel, c'est deux mecs.
C'est du gospel.
Et là, on a
deux mecs et deux filles. Tu prends le groupe à bas parce que c'est les mecs qui chantent.
Von Enem.
Bon, les filles chantent aussi.
Von Enem.
Velvet Underground.
Ah non, je ne te dis pas en plus. Les mamans et les papas.
Ah, mamas and the papas.
Voilà, t'as vu que tu connais.
Bah ouais, ouais. Si Manu est sur le chat,
je fais grève.
On revient un petit peu vers nous, mais pas tant que ça. Alors, ça va falloir.
Madonna ?
Non.
C'est pas David ?
Non.
C'est pas Iggy ?
Monday ?
Monday Monday.
Tu peux reconnaître la voix du chanteur. Ah. C'est pas un morceau de connu du groupe, j'avoue que. Mais la voix.
Wham.
C'est pas Justin Alors, Bieber, non Laurent.
Les Smiths. Les...
C'est un quiz spécial Justin Biebering pour Laurent.
Il faut arrêter avec ça, je supporte pas ce
ouais, oui, mais si.
Pas les cures non plus.
Les grandes passions sont refoulées.
On n'est pas loin, on est dans la même époque.
Les Clash.
Alors là, tu reconnais là.
Non, non, c'est pas ça.
Duran Duran.
Putain, j'avais pas reconnu.
J'étais en train
quoi.
De chercher le nom. Merde.
Bah oui, Duran Duran.
Ça, c'est un morceau que je connaissais pas. De ce chanteur hyper connu.
Français ?
Non. Putain. Anglais encore. Meet You Monday. Meet You Monday, ça veut dire que lundi, pas de viande. On sent bien les influences écologiques du chanteur.
C'est pas un John Lennon ou un Paul McCartney.
Oui, bien vu.
Ouais, bien c'est joué. Lequel Paul, Paul McCartney.
Oui, non,
McCartney.
Bien joué.
Bon, là, vous trouverez pas.
C'est pas grave. Cadeau Belafonte.
C'est pas grave. Quoique, si, ouais, si son nom circule, mais il est vraiment pas super médiatique. En plus, c'est un morceau live. Long lundi.
C'est Janine qui parle derrière.
Français ?
Oui, français, français. C'est pas le genre de gars que tu croises à tous les. Tous les 20h du journal. Le journal 20h.
Monte un peu le son, j'ai du mal à entendre.
Il a une voix très particulière quand même. Je le comparais peut-être à Hubert Félix Thiéphaine.
Merde, j'allais dire ça.
Non,
c'est
cool. Non, c'est pas lui. Justement, le gars que tu vois jamais dans les interviews ou quoi que ce soit, mais qui remplit les concerts. Bertrand Belin. Je vais tenir ce nom.
Bertrand Belin.
Comme les biscuits.
Comme les biscuits.
Il vient de casser ma vanne, quoi.
Mais la comédie, le Petit Prince a fait plus.
What?
En parlant de gâteau, moi.
Plus que trois morceaux. J'ai gardé les meilleurs pour la fin, bien sûr.
Claude François.
On retourne un petit peu dans les années 80.
Alors, ça, c'est The Cure.
Super Monday.
Et non. C'est le nom du groupe qui contient lundi.
Happy Monday.
Oh, ah, presque. Au pluriel.
Happy Monday. Happy Monday.
Voilà, c'est mieux. C'est le nom du groupe. Happy Monday.
Happy.
C'est quoi? Pourquoi j'ai dit happy?
Ah, comme les Black Eyed Peas. C'est...
Absolument pas.
Quoique, c'est un peu l'heure de l'happy quand même, faut avouer.
Claude-François.
Attention.
Forcément. Alors là, le président a tout de suite sauté sur le quiz et est en train de taper la réponse.
On va lui laisser le temps de taper. Je t'aime le lundi.
Je t'aime le mardi. Alors, comment faire un quiz sur le lundi sans passer ça?
Ah oui, c'était obligé, ouais.
Vous êtes gentil. Eh, je n'ai pas été méchant. Hein. Je ne l'ai pas mis en morceau de fin. En générique de fin. Pour trouver le prénom du gars.
Oui, je me souviens en plus, c'était pendant l'émission où on avait parlé du. Où le président était là.
Catherine.
Exactement. Le président, on l'avait reconnu tout de suite. C'était l'émission sur les bisous.
Oui, exact.
Le quiz sur les bisous. J'aurais même pu le mettre dans un quiz mardi, mercredi, jeudi.
Et c'est un prénom, son plus.
Un prénom.
Oui,
italien.
Alors, vu qu'il y a eu les. Leonardo, Michelangelo.
On va devoir profiter de cette magnifique.
Non, on va peut-être pas devoir. Hein.
Si tu le tiens, je peux couper le PC.
Non, il est sur batterie.
Oh merde.
Tu peux plus tricher, non ?
Je triche.
C'est pas Bernardo ?
Pas loin.
Ah ouais, j'étais pas loin, ouais, exact.
Eduardo.
Eduardo.
Faudrait que j'essaye de placer dans chaque quiz.
Ou pas.
C'est pas bien ça.
je crois qu'il va avoir des bips.
Ça, c'est la dernière, Dom.
C'est le générique de fin. On va faire plaisir. Tu reconnais cet album découverte?
Moi, je reconnais.
Dont on n'a pas passé assez de morceaux.
Attends.
Bon, le morceau.
C'est pas du Laurie, quand même.
Non. C'est un morceau un grand morceau de la chanson française, d'un grand artiste qui a été cité pendant ce quiz, d'ailleurs.
Claude François.
Repris, absolument. mais repris par quelqu'un d'autre.
Ah, oui, Camembert et Sushi.
L'album Camembert et Sushi. Et maintenant, il faut retrouver le titre de la chanson.
Le lundi au soleil.
Voilà.
Bon, j'avais pas tort.
Ça tombe bien en plus, parce que je suis sûr qu'au moment où passe l'émission, il fait un magnifique soleil.
Ou pas. Bah, surtout qu'à cette heure-là, normalement, il fait noir, mais bon.
Déjà. Oui, mais on y croit. Mais au Japon, il fait peut-être du soleil. Mais oui.
Ouais, mais il fait noir.
Sushi.
Wow.
Je suis navré.
En plus, on profite du clip. Magnifique.
Le clip est. Sans commentaire. Sans commentaire.
Oh, ça aurait pu être du David Lynch à Melloy. Hein.
N'hésitez pas à envoyer vos mails d'insultes directement à Dominique pour cette musique de fin. On va vous laisser pendant 3 minutes.
Quoi ? Il est presque mieux que l'original.
Ouais, c'est pas difficile.
Ah, on s'est fâché avec les fans de Claude François aujourd'hui aussi.
Après les Bretons.
Donc on s'est fâché avec les vieux, quoi.
On peut se fâcher avec les Japonais, c'est pas grave.
Donc voilà, c'était la fin de ce 30e épisode de l'Another Podcast. On se retrouve pour la prochaine émission et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.
Bye. Salut.
I'm so glad it's you.